les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier, Nathanaël Picasse.
Brute, Mademoiselle Parker, Jarod et bien d'autres sont des noms qui ont pas mal marqué la télévision. Et pourtant, depuis quelques années, le caméléon est quand même tombé un petit peu en oubli.
En effet, ce sont des noms qui ont marqué, mais qui sont peut-être tombés un peu
en désuétude,
ça c'est évident. Une série qui a compté 4 saisons entre 1996 et 2000. Elle était diffusée sur NBC. Elle a été clôturée en 2000 par 2 téléfilms. Elle faisait partie de cette fameuse trilogie The Others avec Profiler et Dark Skies, l'impossible vérité.
Et c'est probablement l'une des premières séries à avoir développé un noyau de fans au niveau d'Internet, aussi fort en tout cas.
Et c'est pas sûr qu'on se souvienne pourquoi aujourd'hui. Alors on se souvient pas très bien non plus de ce qui est devenu Michael T. West qui jouait Jarod. Par contre, Lyle fait maintenant partie du casting de Desperate Housewives, mais c'est pas du tout de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, Nat.
Non. Ici, je vais essayer de resituer un petit peu la série. Donc, elle a été créée par le duo Stephen Lang Mitchell et Craig Van Sickle. Faut savoir que c'est un duo qui s'est rencontré au début des années 80. Pour la petite histoire, ces derniers avaient d'abord entamé leur collaboration en tant que comédiens. Ils formaient un duo comique qui écumait les petits théâtres au sud de la Californie. Donc, rien à voir. Et les deux compères se sont ensuite dirigés vers l'écriture de scénarios. Ils ont ainsi signé plusieurs scripts de Arabesque et de Alien Nation, avec succès puisque la Warner Bros. Television les a engagés pour développer de nouveaux concepts de séries. Mitchell et Sickle produisent alors les séries Cobra, Street Justice et Flash, des séries qui rencontreront leur public. Et pourtant, quand les deux amis présenteront le projet du Caméléon, ils se sont heurtés à un mur de réticence. Personne ne semblait y croire, les patrons de NBC finiront par céder et intégreront la série à leur grille pour créer la fameuse trilogie dont tu viens de parler. Et il faut dire que pendant 4 années, le public donna raison aux deux producteurs puisque le Caméléon était un vrai succès. L'histoire, bon, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de résumer du mieux que je peux. Il faut savoir d'abord que l'histoire du caméléon est d'après ses auteurs inspirée de faits réels, alors voilà de quoi faire frémir lorsqu'on sait le nombre de meurtres, de vengeances et de secrets, de trahisons qui jonchent la série. Fort heureusement, quand les auteurs disent qu'ils se sont inspirés de faits réels, ils veulent dire par là qu'une histoire vraie leur a donné l'idée du caméléon, ils se sont inspirés de cette histoire d'un vrai caméléon. Les aventures de Ferdinand Demara, un américain qui est mort en 1982 et qui est connu pour ses exploits de caméléon. Puisque l'homme avait réussi à se faire passer pour un chirurgien, un moine, un professeur, mais aussi un gardien de prison. Donc assez fortiche, le gars. De là, alors, naît l'idée de créer cette série centrée sur un personnage capable de se fondre dans n'importe quel milieu et de prendre n'importe quelle identité. Jarod était né. Enfant, le jeune Jarod est soustrait à sa famille, il est enlevé et élevé dans le centre, une corporation privée située dans la crique bleue de Delaware aux États-Unis. Cette corporation mène des objectifs douteux et flous qui ne seront jamais vraiment dévoilés au public. Tout au plus, on sait qu'ils ne sont pas fardés de bonnes intentions, qu'ils utilisent la science sans aucun scrupule pour servir des intérêts militaires et économiques et qu'ils n'hésitent pas à tuer pour obtenir ce qu'ils désirent. Alors le centre est piloté directement depuis l'Afrique par un groupe qui se fait appeler le Triumvirat. Quant à Jarod, eh bien, il est de toute évidence le projet le plus abouti du centre. En effet, ceux-ci l'ont élevé et conditionné depuis sa plus tendre enfance. Ils ont exploité ses prédispositions intellectuelles pour en faire le caméléon parfait. Jarod est un homme d'une extrême intelligence. On estime son QI à 160 et il est capable de comprendre des concepts ultra compliqués en un rien de temps. Pendant toute son adolescence et le début de son âge adulte, Jarod a aidé le centre à remplir des missions causant la mort de milliers de personnes. Bien entendu, celui-ci l'ignorait. Il croyait que c'était juste des simulation qui pourrait aider l'armée. Mais le jour où il prend conscience que le centre l'a trompé depuis le début, le privant même de ses parents, Jarod s'enfuit, il décide alors d'expier ses fautes en faisant le bien autour de lui. Il utilise alors son extrême intelligence pour aider les innocents et parallèlement il se fixe comme but de retrouver son père et sa mère qui sont toujours vivants. Du côté du centre, l'évasion de Jarod est une grosse perte, ils sont forcément pas très heureux. Son directeur, Monsieur Parker, cherche sa fille, Miss Parker, Brute, qui est un génie de l'informatique, et Sidney, celui-là même qui a élevé Jarod pendant toute son enfance. Eh bien, il les charge de retrouver Jarod et de le ramener vivant au bercail. Mais bien vite, cette fine équipe se rendra compte que, à leur tour, le centre n'est pas ce qu'il prétend être. Leur traque de Jarod deviendra de plus en plus ambiguë, alors est-ce qu'ils cherchent vraiment à le capturer ou cherchent-ils plutôt à découvrir la vérité sur le centre, indirectement avec l'aide de Jarod. Sur leur chemin, ils croiseront invariablement deux personnages énigmatiques vers lesquels toutes les énigmes convergent. Il y a Monsieur Parker et surtout Rains, cet ancien médecin qui est devenu invalide suite à des problèmes respiratoires, traîne en permanence une bouteille d'oxygène derrière lui. Mais cette fragilité, ce handicap n'est vraiment qu'une apparence, puisque Rains est une araignée qui tisse sa toile depuis de nombreuses années et qui a une soif de pouvoir absolu au niveau du centre.
En tout cas, on a bien compris que cette série participe du phénomène de conspiration, voilà. Dont participe aussi X-Files par exemple ou Alias.
Voilà, ouais. Avec des intrigues et des révélations qui se succèdent au fil des épisodes.
C'est vrai qu'on voit que X-Files est passé par là, puisque ça part un peu parfois dans tous les sens et qu'il y a aussi des énigmes qui ne seront jamais résolues.
Et puis des grosses invraisemblances aussi qui des fois commencent à être un petit peu lourdes.
Voilà ton coffre, je n'ai pas pu l'ouvrir.
Ah bon ? Ah, mais peut-être que je ne t'ai pas donné la bonne clé. On va ici, celle-là. Voilà. Ah, c'est la bonne clé. Je suis désolé, mon ange, de t'avoir entraîné là-dedans.
Bébé Parker, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est rien.
Non, voyons, c'est mon dossier médical.
C'est vieux, c'est sans doute.
C'est le mien ou celui de Larry ?
Aucune importance. Trésor, crois-moi, quand j'aurai un peu plus de temps, je t'expliquerai tout. Maintenant, donne-moi ton arme.
Pourquoi ? Je sais, maintenant c'est toi qui es devenu leur cible.
Oui, ces ordures resserrent les mailles du filet.
Qui a lancé un contrat sur toi ?
Cet trésor, je n'en sais rien. En revanche, je sais que ceci est la seule chose qui comptera dans le futur. C'est l'avenir de notre famille. C'est l'héritier des Parker. Son petit corps grandit dans le ventre de Brigitte. L'enfant naîtra très bientôt.
Qu'est-ce que tu veux d'autre ?
La clé de tout, c'est Jarod. Ramène-le, mon ange. Et tout redeviendra comme avant.
Faut dire en fait que le caméléon, à l'instar de Seth à la maison, affiche clairement.
Non, je.
Oui.
C'était dû quand même, comme rapport.
Si. C'est une série qui affiche clairement ses valeurs chrétiennes dès le départ. On parle de péché, de pardon, de rédemption, la figure christique, mais aussi surtout la famille. C'est là où je voulais en venir, c'est que cette série, le caméléon, vidé de toute esbrouffe pyrotechnique, de toute action, n'est jamais qu'un soap opéra racontant les déboires d'une famille atteinte d'un syndrome extrême de mensongite aiguë, on va dire.
Voilà, l'héritière de Dallas.
Exactement.
Ceci étant, c'est normal, hein, cette espèce de christianisme ambiant, puisque c'était inspiré par Code Quantum, qui lui-même parlait de Dieu quand même à la fin.
Et Jarod, d'ailleurs, ça commence par un J comme Jésus. Il y a très souvent où c'est sous-entendu que ce serait une sorte de réincarnation de Jésus. Ils vont un petit peu loin quand même à ce niveau-là. Chaque épisode du Caméléon est l'occasion pour les scénaristes de poser une nouvelle énigme, surtout un nouveau rebondissement. Chaque épisode dévoile petit à petit les dessous d'une famille pas franchement folichonne. On croit apprendre la vérité. Deux épisodes plus tard, celle-ci est remise en question. Ce jeu du faux-semblant est la structure même de la série. Tous les personnages mentent, tous prétendent être ce qu'ils ne sont pas, et le miroir d'une famille se craquelle à mesure que les révélations se succèdent.
Mais dis-moi, Alias n'a rien inventé finalement alors ?
Non, pas du tout. Oh, non. J'ai toujours dit ça. Alias a toujours brassé énormément de choses, mais n'a absolument rien inventé. Enfin, a peut-être inventé ce brassage, mais dans le fond, n'a absolument rien inventé.
J.J. Abrams sont à découvert.
Je remarquais par rapport à cette réflexion du fait que tous ces personnages mentent et tout, ils prétendent tous et quelque chose qu'ils ne sont pas. Je crois qu'au niveau de la VO du titre, le caméléon, c'est The Pretender, donc celui qui prétend. Donc cette histoire ne raconte pas l'histoire de une seule personne qui prétend, mais de tout le monde qui prétend être ce qui n'est pas. Donc je trouve que le titre original est plus parlant à ce sujet. Attendez-vous quand même à assister à un nombre de scènes du style « Je ne suis pas ton père, tu as un frère jumeau, je ne suis pas celui qui a tué ta mère n'est pas vraiment morte, et j'en passe et des meilleurs ». Alors si ce genre de pirouette vous excite, alors vous avez frappé à la bonne porte, le caméléon va vous en donner pour votre argent. Par contre, si vous êtes plutôt allergique aux gens, vous risquez de décrocher très rapidement. C'est vraiment sur ce point que le caméléon est un précurseur d'Alias. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi la série depuis le début, vous risquez d'être un petit peu perdu parce qu'il y a des personnages tout d'un coup qui se rajoutent et qui sont extrêmement liés au niveau familial et on ne sait plus trop pourquoi si on a raté un ou deux épisodes. Série ou feuilleton, le caméléon, je crois que la question mérite d'être posée, puisque vraiment les scénaristes ont tenté de réaliser l'une des premières séries feuilletonisantes, je crois que le terme est un petit peu barbare, mais c'est un peu ça, mais avec un plus ou moins de réussite. Alors globalement, je veux dire que les épisodes du caméléon peuvent être schématisés en deux structures narratives différentes, qui donnent parfois l'impression de regarder deux séries différentes. Il y a des épisodes qui ont une tendance sérielle, des épisodes par exemple de la saison 1 qui est vraiment une série. La plupart des épisodes racontent comment Jarod vole au secours d'un innocent et sont des épisodes assez immuables dans leur structure.
La saison 1 qui est très différente du reste de la série finalement. D'ailleurs, ouais. Quand on commence à regarder avec la saison 1, on a parfois même très envie d'arrêter après 4-5 épisodes parce que ça devient tellement lassant, c'est toujours le même schéma. Schéma qui va être complètement modifié à partir de la deuxième saison.
Voilà, ben, je vais justement expliquer un petit peu ce schéma. L'épisode commence invariablement par Jarod qui apprend qu'une injustice a été commise, souvent en regardant le journal et en voyant 2-3 articles qui parlent d'une famille, parce que c'est toujours ça. C'est une personne qui est accusée à tort d'un crime et qui est de fait éloignée de sa famille, et Jarod ne peut pas supporter ça, qu'une famille soit brisée parce que la sienne l'est. Il décide d'entrer en action, il prend alors l'identité qui lui permettra de s'insérer dans le milieu familial en question. Alors il devient médecin, pilote de chasse, magicien, peu importe, et très rapidement il démasque le vrai coupable et met en place une vengeance, et invariablement il applique la loi du talion pour ce dernier, donc il le met dans une situation de stress identique à celle qu'a connue la victime innocente. Ainsi, le coupable confesse ses crimes et se fait arrêter. Famille, péché, loi du talion, confession, purgatoire, les valeurs de l'Ancien Testament se retrouvent abondamment dans chaque épisode, donc je ne mentais pas quand je disais que les valeurs chrétiennes étaient particulièrement présentes. Parallèlement donc au sauvetage de Jarod, le centre continue sa traque de Jarod et ils finissent par le retrouver toujours, mais toujours trop tard, puisque celui-ci, avec l'aide de ses nouveaux amis, donc les innocents qu'il a sauvés, arrive toujours à leur échapper de peu et fait toujours une pirouette de loin en disant « Coucou, vous m'avez pas eu ». Ça, c'est vraiment assez typique de la première saison et c'est un petit peu lourd. Quand on a regardé 4 épisodes, on les a tous vus de la première saison. Je crois qu'après, on peut tout de suite passer à la seconde. Heureusement, dès la deuxième saison, et la tendance veut plutôt feuilletonisante, quand Jarod ne part pas sauver la veuve et l'orphelin, il cherche à percer au jour tous les mystères du centre. Et là, la structure narrative change totalement. Il s'agit bien ici d'un feuilleton, c'est-à-dire que c'est une grande histoire qui est découpée en plusieurs chapitres et qui est alors ici uniquement focalisée sur le centre et la famille qui s'y entre-déchire. Cette histoire là évolue au cours des saisons, les rebondissements et les révélations s'enchaînent à vive allure à partir de cette saison 2.
Et de nouveau, on voit que la série doit beaucoup à X-Files à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Il faut dire aussi qu'en soi, faire appel à ce mix de séries et de feuilletons n'a rien de grave, au contraire, c'est vraiment bien. D'ailleurs, la plupart des séries maintenant vont dans ce sens. Mais ici, le mélange n'est pas toujours des plus réussis. C'est vraiment, on a soit cet épisode où Jarod sauve la veuve et l'orphelin, soit on se concentre sur le centre, et le mélange est toujours un petit peu difficile.
Alors, Argan, c'est avec ça que vous vous adressez à un chien, vous ?
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Je voudrais vous montrer un truc que je lui ai appris.
J'en ai rien à foutre de cet abruti, détachez-moi !
Hey, c'est pas un abruti. C'est même le meilleur ami de l'homme. Et on m'a dit que si vous lui remplissez bien l'estomac, lui, il fera tout ce que vous voudrez. Sa nourriture préférée, c'est la même que la vôtre. Fromage instantané. Il n'y a aucune vitamine là-dedans, mais ça ne fait rien, le goût est excellent.
On l'irait une fois sorti d'ici, je vous défonce la tête !
Alors, j'ai pas intérêt à ce que vous sortiez. Attention, voilà le fameux truc. Hé, hey, petit père, allume la lumière. Allez. Allez. Bravo. Il est chouette ce coup-là, hein, Argan. Mais attendez, c'est pas fini.
Mais vous faites quoi, là? Vous êtes fou?
Oh, un court-circuit. Ça va, fiche le feu, ça. Allumé par un chien. Horrible accident.
Il faut l'éteindre.
Je veux bien, mais je sais pas trop de quelle façon. C'est vous, le pompier, c'est pas moi. Oups, deuxième court-circuit.
Ça suffit maintenant, détachez-moi tout de suite.
Ah, excusez-moi, il faut que je téléphone.
Ici Brigade 16.
Une maison est en train de brûler.
Au 16309 Ellsworth Terrace. Merci. Espérons que la brigade 16 arrivera à temps, capitaine. Les flammes montent très rapidement sur ces murs. Mais c'est normal. J'ai arrosé de produits inflammables tous les circuits électriques de la maison. Comme ça, les flammes et le feu vont bien se propager. On croira à un accident. Et personne n'en saura rien.
Oui, mais moi...
Ou bien même les meilleurs incendiaires font des erreurs. N'est-ce pas, chef ?
Non ! Donnez-moi la clé !
Tu vois, le capitaine a très peur, mon toutou. Tamara Copland a dû avoir peur, elle aussi. Le soir où l'entrepôt était en feu. Mais elle comptait sur le capitaine de l'équipe, celui en qui elle avait confiance et qui devait la protéger. Va m'attendre dehors, mon pépère. Je voudrais pas te voir brûler.
Allez !
Attendez, les gars ! J'ai d'abord quelque chose à vous faire écouter.
dépend. Il faut que j'y aille.
Ça commence sérieusement à chauffer ici.
O'Leary, vous n'allez pas me laisser brûler.
Et pourquoi pas? Vous avez bien laissé Copland ce soir-là.
Ouais, je l'ai laissé brûler.
L'assurance a payé la note. Et vous, vous avez empoché le pognon.
Pour vous payer votre carrelage italien.
Ou ce truc qui vient d'une grande échelle de 1934 et qui décore votre bar dont vous êtes vraiment très fier.
Oui, je l'ai laissé cramer. Maintenant, donnez-moi la clé.
Cette clé-là?
Ouais.
Bien sûr. Attention, c'est chaud.
O'Leary! O'Leary!
On va quand même passer maintenant à la critique de la série. J'ai dû me la retaper en entier.
Allez, on se remonte les manches.
Oui.
Ça donne l'idée de la critique qui va suivre, à mon avis.
Bon, je vais être un peu plus dur que je ne le devrais, mais il y a quand même quelques critiques qu'on peut pas passer comme ça sous silence. Et puis voilà, on va commencer déjà par le fait que la série a très mal vieilli. Pourtant, il y a à peine 10 ans qu'elle est sortie, mais elle a quand même déjà mal vieilli. Parce qu'après 24 heures chrono, Prison Break ou encore Alias, ben force est de constater que notre bon vieux Jarod a pris un sacré coup de vieux. Les scènes d'action sont un petit peu poussives. Je pense notamment à une scène à la fin de la saison 3 où Jarod prend une moto pour échapper à l'hélicoptère qui le poursuit.
Déjà, c'est un bon réflexe.
Voilà. Et parce que s'il arrive en dessous d'un tunnel, ouais, l'hélicoptère, il ne sera pas passé.
Mais s'il est sur une piste d'avion, donc il est un petit peu à découvert, je dirais. Et bon, on sent un peu la cascade typique série télé, je vais dire. Donc, et puis il tombe et on a un peu le ralenti. Et bon, ça a un petit peu mal vieilli par rapport aux exploits des nouvelles séries. Les intrigues aussi semblent un petit peu grosses comme des maisons. À chaque nouvelle révélation, on se dit oh là là. Et puis le maquillage aussi est très grossier. C'est très années 80. Andrea Parker, par exemple, est toujours maquillée avec un gros bleu sur les yeux. C'est oh, on se dit ouh, quand même. Bon, voilà. Donc là,
Agnès Moorehead dans
bien aimé.
Donc oui, c'est vrai que là, on se dit quand même que Le Caméléon est vraiment une série des années 90. Deuxièmement, il faut quand même dire que la série est relativement inégale. La première saison est franchement légère avec ses épisodes très sériels qui se répètent invariablement.
Je dirais même plus qu'elle est très légère si on a déjà vu des épisodes de la suite.
Oui, on se dit bon, c'est quand que ça avance.
C'est quand ça commence. Quand est-ce qu'on va enfin avoir un peu d'action?
Voilà. Donc heureusement que les auteurs décident de s'attaquer au mystère du centre et aligner les rebondissements après. Donc là, vraiment, la série prend un autre tournant. Ma troisième critique, c'est que les personnages manquent d'épaisseur. Ils sont tous un petit peu monomaniaques parce qu'ils ont tous un but qui se sont fixés et il y a que ça. C'est un peu comme Scratch. Vous savez, l'écureuil préhistorique dans L'Âge de glace, celui qui cherche toujours son gland. Et ben c'est un peu ça. Ces personnages, ils cherchent tous leur gland. Hein, c'est un petit peu résumé, mais c'est un petit peu ça.
Parce que c'est une jolie image.
Mais c'est vous qui voyez le mal. Moi, je parle de gland, le fruit sec. Mais enfin.
Pour des enfants, nous écoute, s'il te plaît.
Ici, donc, on a vraiment Jarod qui n'a qu'une seule obsession, c'est reconstituer la famille avec un grand F, puisque c'est la sienne et celle des autres. Tandis que Miss Parker, toujours en colère, traque la vérité au sujet de la mort de sa mère. On se dit, bon, ben, on va finir par savoir comment elle est morte, sa mère, c'est pas possible, quoi. Bon. Et ça finit par lasser. Alors, d'autant que il est évident depuis le début que toutes les réponses se trouvent au centre, mais à chaque fois que Miss Parker, ses investigations l'amènent à une nouvelle révélation, elle ouvre de grands yeux et elle s'étonne d'avoir été trompée. Et on se dit, oui, bon, mais ma chérie, il est temps quand même que tu ouvres les yeux parce que ça fait un petit moment que c'est un peu évident.
C'est dans le film des nuls où il disait on ne peut pas tromper mille fois un homme. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. On peut pas tromper une fois mille personnes, mais on va oublier.
Ben, je crois qu'elle aurait dû appliquer cette maxime un petit peu plus souvent. Voilà. Alors, ma dernière critique s'adressera alors aux deux téléfilms qui sont censés clôturer l'intrigue. La saison 4 s'est terminée quand même assez brutalement puisqu'il y avait Jarod, Miss Parker et Ethan. Alors, qui est Ethan, c'est le demi-frère de ces deux personnages, donc qui a été conçu avec le père de Jarod et la mère de Miss Parker, pouf, et qui a les aptitudes des deux personnages.
C'est-à-dire qu'il se maquille comme Miss Parker.
Non, parce que Miss Parker découvre qu'elle a un sixième sens à la fin de la saison 4.
Fille, voilà.
Et alors, avec le père de Jarod, il a les aptitudes de Jarod. Il y a quand même une théorie d'eugénisme là-dedans, quand même, que si on a l'ADN d'un tel et l'ADN d'un autre, on arrive quand même à un certain résultat.
On n'avait pas vu, mais c'est Zola, en fait.
Exactement. Donc voilà, donc j'en reviens à cette histoire de la fin de la saison 4. Jarod, Miss Parker et Ethan sautent d'un métro rempli d'explosifs. La bombe explose et détruit la moitié du quartier. Les trois héros ont-ils survécu? la question reste ouverte à la fin de cette saison 4. Donc les fans de la série étaient hystériques, et grâce à Internet, et c'est là que je rejoins Alex à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment une des premières séries qui a reçu vraiment un très fort soutien au niveau d'Internet, puisqu'ils ont vraiment bombardé de messages les producteurs et les responsables de la chaîne pour qu'ils offrent une fin digne à leur série fétiche. Et quelques mois plus tard, la nouvelle tombe, Jarod et ses amis vont connaître les joies de deux téléfilms qui finiront définitivement cette histoire.
Après avoir Sauf vu... que...
Voilà. Voilà, c'est à peu près ça.
Sauf que, après avoir vu ces deux téléfilms, le téléspectateur a le droit de rester circonspect. J'adore ce mot. L'histoire est un petit peu
D'abord, il y a une des deux histoires qui se rapporte quasiment pas à ce qu'on a vu avant.
Voilà, donc il y a une nouvelle intrigue qui revient. On se dit, bon. En plus, Jarod n'a fait qu'apercevoir sa mère lors d'un mouvement de foule. Donc on se dit, toute son histoire, c'est de retrouver... Bon, il avait déjà retrouvé son père, mais il voulait encore retrouver sa mère et il la rate encore. Donc ça, c'est un petit peu énervant. Et Miss Parker en apprend une bonne à nouveau sur son père. Pour changer, on va dire. Donc ça devient un petit peu énervant. Et surtout, les scénaristes qui avaient suggéré que Jarod était la réincarnation du Christ, et ben là, carrément, ils l'affirment avec une histoire de mystique, de décrit qui serait gardé dans le centre. Et voilà, c'est un final un peu mystique qui
sort très
léger.
On reste sur sa fin, finalement.
Oui, on reste sur sa fin parce que c'est pas tout à fait expliqué.
Ils nous avaient promis une fin concrète et finalement, on n'a pas de fin à cette série.
Non, voilà. Et puis ces écrits, pour finir, sont jetés dans la mer et on voit pour finir sur une plage, des feuilles qui se froissent et...
attendent une suite, finalement, qu'on n'aura jamais.
Ouais. Bon, j'espère pas, parce que finalement...
Laissons-les reposer en paix.
Oui. Ceci dit, ça pourrait, parce que les acteurs ne font rien depuis.
Ouh, que c'est méchant.
Donc, ils sont libres.
Bon... Ces critiques mises à part, je trouve que si on est indulgent,
pas grand chose.
Non, mais restons quand même indulgents. Si on voit vraiment cette série en se disant, faisons abstraction de ce qui s'est fait après, la série est quand même intéressante dans bien des domaines. Bon, elle a suivi X-Files et tout, mais elle a quand même initié après des histoires de famille comme ça, très fortes, qui vont après être précurseurs de séries comme Alias. Puis après, il faut quand même citer les deux acteurs principaux qui avaient quand même énormément de charme. Michael T. Weiss en Jarod, qui était idéal, je trouvais, en homme enfant, oui, capable de tout. À noter quand même que sa voix en version originale est quand même nettement plus intéressante qu'en version française, parce qu'en version française, on lui donne une voix un peu assez gamine, tandis qu'en version originale, il a une voix très, 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 très grave.
C'est un peu Sylvester Stallone.
C'est une voix grave qui contrebalance très bien sa dimension enfantine et ça rend le personnage un petit peu plus inquiétant que ce qu'il n'est en version française. Et puis, je pourrais pas terminer ce dossier sans mentionner Andrea Parker, donc celle qui joue Miss Parker.
Qu'est-ce qu'elle est jolie!
Bon, le joli oui, mais surtout, je trouve que c'est la parfaite réincarnation de Emma Peel.
Tout à fait.
Je crois qu'ils ont énormément joué sur cette dimension-là. Même coiffure, un peu rétro. Vous savez, celle qui tombe en casque et puis qui repart en houppette, en fait, sur la fin. Et puis, même tenue, toujours. Elle est toujours en tailleur très strict, avec une taille de guêpe.
Ah, c'est glaçon sur la banquise.
Voilà, oui, très, très glaçon. Elle est un petit peu plus cynique, quand même, que la Emma Peel de base. La Emma Peel de base était plus drôle. Ironique, Andrea Parker est plutôt cynique. Voilà.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.